Regarde-moi ça. J'ai l'impression de faire la dégustation.
Ouh. Ça c'est de la vie, je crois. Ah, c'est magique cet endroit.
C'est absolument dément.
Et le spot est juste incroyable.
Ça joue vraiment à quelques centimètres.
On va s'enfoncer un peu dans la forêt.
Oh, ok, bon, ok.
Tout le monde est absolument gentil.
C'est ça la vie. Numéro.
Bonjour internaute et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage. Et aujourd'hui, je t'emmène dans un trip dans notre bonne vieille Europe et dans un trip qui me fait bien plaisir parce que c'est dans l'air du temps. C'est à pied et ça, c'est avec Neil qui va nous raconter tout ça, qui est parti avec sa chérie pendant plus de 2 ans à travers l'Europe, du Portugal jusqu'à Istanbul. Salut Neil, comment ça va?
Salut, super, super, écoute, on est rentré il y a une petite semaine maintenant et voilà, un petit peu plus de 2 ans sur les sentiers de l'Europe, pas les sentiers les plus faciles en plus, on a bien déliré. Et voilà, ça a été un gros, gros projet pour nous et on a pas mal de trucs à raconter, t'imagines.
J'imagine bien. Justement, enfin, j'aime bien commencer par cette question. Avant même de savoir où vous êtes allé, même si j'ai vu un peu l'itinéraire, ça a l'air bien alléchant. Pourquoi vous avez décidé, à contrario de certains qui vont faire, et moi je l'ai fait, hein, ce classique Asie, Océanie, Amérique du Sud, prendre un break, etc. Pourquoi vous êtes parti en Europe et à pied?
Bah c'est une question qu'on nous pose pas mal, évidemment, parce que pour nous, l'Europe, ça a toujours été au cœur du truc, tu vois.
Ouais.
On avait envie déjà de partir assez proche de chez nous.
Okay.
Pour inspirer les gens à voilà, participer de ce petit geste pour l'environnement en essayant de pas voyager trop loin. Et puis tous les deux, on s'est assez vite rendu compte quand même en se demandant où est-ce qu'on voulait aller, qu'il y a plein d'endroits dont on a beaucoup d'images en tête, qu'on retrouve souvent dans les médias, tu vois. Ouais. Et à contrario, d'autres endroits très proches de chez nous qu'on voit jamais mettre des images sur la Bulgarie, sur la Bosnie.
La Roumanie.
Ouais, la Roumanie par exemple, tu vois. Il nous vient quelques trucs, c'est souvent des clichés.
Ouais.
C'est souvent vieux aussi, parce que par exemple, la dernière fois qu'on a vu le Kosovo à la
c'était
télé.
C'était en 91.
Donc, bah, voilà,
et c'était un petit bout. Pour ceux qui étaient nés, voilà. C'était...
Je sais pas si ça donnait vraiment très envie de voyager, tu vois.
Non, pas vraiment. Et...
Du coup.
Ouais, non, mais ouais, je trouve ça vraiment génial de se dire. En fait, on n'arrête pas de nous bombarder de contenu, des choses à l'autre bout du monde. Mais quand je regarde juste à côté de chez moi, en fait, j'ai aucune idée d'à quoi ça ressemble, en fait. Mais, donc ça, c'était un peu une des premières choses qui vous a donné envie de partir à côté. Et pourquoi, encore une fois, pourquoi à pied? C'était vraiment ce sentiment de dire, ok, on va voyager longtemps, on a envie aujourd'hui d'avoir un impact réduit. C'était vraiment ça, une des raisons?
À pied, je pense que c'est une des raisons. En tout cas, l'impact que tu laisses à pied, évidemment, c'est plutôt clair, tu vois. D'un autre côté, voyager à pied, c'était aussi s'offrir un peu cette vulnérabilité qui fait que les gens savent que tu vas pas t'échapper, tu vois. T'as tout de suite ce côté très simple où t'arrives en tant que marcheur et bon, les gens ont un petit peu moins peur, je pense, que si on est à vélo même, tu vois, et qu'on peut vraiment voilà, enfin
je vois, désolé. En fait c'est un peu ce côté où ouais, je suis dans ma bagnole, parce que souvent en plus l'Europe ça se fait vachement en road trip, tu sais, genre je suis dans ma bagnole, hop, je pose ma tente ou je vais dans des petits hôtels. En fait toi, vous vouliez vraiment vous imprégner, vous intégrer, vous expérimenter le quotidien et le truc dans le plus pur sens de l'art, on va dire, de voyager. C'est un peu ça.
Bah, si tu veux, déjà, quand t'es à pied, quand même, t'as cette idée de simplicité, quoi. Tu voyages vraiment au rythme des saisons, tes journées sont beaucoup plus courtes, tu dois poser la tente au besoin, tu vois.
Ouais.
Tu prends un petit peu le rythme que t'impose le soleil, quoi.
Ouais.
Et puis, ça permet une totale liberté, quoi. Il n'y a pas d'endroit inaccessible quand t'es à pied. C'est vraiment, tu n'as même pas de vélo à poser, tu vois.
Ouais.
Tu t'arrêtes exactement où tu veux, et en montagne, c'est un vrai régal parce que tu passes où tu veux, évidemment. Donc, voilà, pour nous, c'était vraiment ces 3 raisons majeures qui ont fait que ça a été une évidence de partir à pied, quoi.
Ouais, c'est faible impact. Tu prends le temps, tu peux aller à la rencontre le plus facilement possible, de façon la plus vulnérable, comme tu dis, à la rencontre des gens. Et en plus, tu peux dire, je vais partout. Je vais à la montagne, vas-y, viens, on grimpe, tu vois. Il n'y a pas le vélo, où est-ce qu'on le met, la voiture, on la gare où. C'est instantané. Alors du coup, fais-nous découvrir votre petit itinéraire que vous avez fait pendant 2 ans. Vas-y, name dropping, balance les pays.
Ouais, ça a pas été facile déjà de créer le parcours,
Ah
t'imagines.
ouais,
Il
ok,
y avait du choix, quoi.
ouais,
Il y
bah
a
il y a
du
du choix.
choix,
Ah, puis si c'est à
c'est
Yep,
qu'une
mon gars,
petite ligne.
le petit détour, il te coûte du cher, hein.
Ah ouais,
Enfin,
c'est
en
sûr.
énergie.
Des détours, on en a fait pas mal. Si tu veux, la ligne n'est pas droite pour arriver à Istanbul. Je pense qu'on aurait pu le faire en 5 000 km.
Et
On a
vous avez...
choisi d'en faire un peu plus de 10 000 quand même.
Ah, d'accord.
Donc, l'idée, c'était de passer par à peu près tous les pays qui constituent le sud de l'Europe, si tu veux.
Ok.
De pas trop faire d'exception, c'est ce qu'on a essayé de faire.
Nice.
Et c'était assez intéressant. Pourquoi le sud de l'Europe? Là, je pense que c'était un petit peu plus facile. Sûrement un petit peu plus sympa en termes de saison et de climat que le nord, tu vois.
Ouais.
Et puis qu'il y a beaucoup de montagnes dans le sud et que la montagne, c'est un peu un des bastions de ces villages et de la nature un peu intouchée, tu vois. Et ça nous intéressait pas mal de mettre beaucoup de montagnes sur notre itinéraire parce que ça représente des endroits assez sympas en général.
Mais tu vois, ce qui est dingue, c'est que comme tu disais tout à l'heure, en fait, on va citer des pays, tu vas citer des pays où en fait, je vais dire, ah, il y a de la montagne. Bon, je commence un peu à connaître l'Europe de l'Est, mais je suis sûr qu'il y en a plein, ils vont dire, ah ouais, il y a des montagnes. La montagne, c'est pas les Alpes. Enfin, tu vois, je pense qu'il y a un peu ce réflexe-là en Europe de se dire, bah, la montagne, c'est les Alpes, après, c'est plat. C'est un peu
Ouais,
ça.
on a quand même pas mal de montagnes en Europe, quoi. Et puis on se rend pas compte, mais il y a des pays qui sont très hauts.
Genre.
L'Espagne en moyenne, c'est plus haut que la France, tu vois.
Ok.
Parce que évidemment, il y a beaucoup de plateaux, que les montagnes du
La
coup qui sont
Sierra,
sur
ouais.
les plateaux sont assez hautes, tu vois.
Ouais.
Et puis tu as des pays comme le Monténégro qui sont là carrément hauts, où il y a beaucoup beaucoup de montagnes, beaucoup de plateaux, il y a énormément à voir dans toutes les Alpes dinariques, qui sont en fait ce massif, si tu veux, qui part de la Slovénie et qui va terminer dans le nord de l'Albanie. Et puis il y a aussi la Grèce, qui est un pays très montagneux. On pense au mont Olympe, mais en fait, il y a énormément de montagnes. La Bulgarie, bref, tu vois, il y a de
Ouais,
quoi
la
faire.
Roumanie avec la Transylvanie, les Carpates, ça aussi, ça envoie aussi pas mal de sommets assez hauts. Du coup, c'était quoi l'itinéraire au final? C'était Portugal, Espagne, ça...
Portugal, Espagne, France, Italie.
Ouais.
On est passé par la Suisse, puis on est retourné en Italie ensuite.
Ok.
Donc on a fait tout l'arc alpin, tu vois.
Waouh, super.
Donc ça, c'était assez balèze. C'était difficile, franchement, au bout de 4 mois à gambader dans les Alpes avec une moyenne de 1 000 mètres de dénivelé positif par jour, tu vois.
Ah, il y a du cuisseau là. Ah, il y a du cuisseau.
Ouais, on était des machines vraiment à ce moment-là, tu vois. Et puis là, on est arrivé en Slovénie.
Ouais.
Et puis la Slovénie, ensuite Croatie, Bosnie. Enfin,
Yes.
Bosnie-Herzégovine, parce qu'on l'oublie souvent, mais c'est deux régions quand même qui sont accolées pour faire le pays, tu vois.
Exactement.
Monténégro, et puis on est descendu en Albanie, on est
Yes.
ressorti au Kosovo,
Ouais.
on est descendu en Macédoine, on est retourné en Albanie encore, parce que l'Albanie, c'est vraiment un pays qui cartonne, tu vois.
Ah, ça déchire.
Et puis on est arrivé en Grèce, on a fait un gros U en Grèce, du coup on est descendu sans faire le Péloponnèse, on est descendu au niveau d'Athènes quasi, tu vois.
Ouais.
Et puis on est remonté par la Bulgarie, la Serbie, la Bulgarie, on a squeezé la Roumanie quand même parce que on
Merde.
était à la bourre, tu vois.
Ah,
Et
ouais, puis c'est grand la Roumanie.
soit tu passais par les montagnes, les Carpates, où là c'est vraiment dur, soit tu passes dans les champs parce que c'est super plat dans le sud, du coup, on a préféré passer un petit peu plus bas et suivre la route du Grand Balkan. En fait, c'est cette montagne qui a donné son nom à la péninsule des Balkans.
Ok.
Et on l'a suivie en fait d'ouest en est et on est redescendu en fait pour toucher la Turquie et atteindre Istanbul le 20, ouais.
Ce qui est magique, c'est quand tu dis ça, on dirait, ah, c'était sympa tes vacances. C'était sympa ton petit road trip. Non, non, ça vous a pris plus de 2 ans en fait.
Ouais,
Et tu vois,
c'était.
est-ce qu'on peut, sur les pays que tu as nommés, qui sont des pays qui sont, comme tu dis, moins connus, c'est d'ailleurs aussi pour ça que vous êtes allé les découvrir de l'intérieur. Est-ce que tu arriverais à me résumer chaque pays en une phrase? Je vais te donner un exemple. La Mongolie, bah, c'est des grandes steppes, des grandes étendues avec la découverte du peuple nomade. Et tu vas alors, sous les yourtes et c'est vraiment des souvenirs incroyables. La Thaïlande, des plages, tu manges bien, des temples, etc.
Ouais,
Vas-y,
ok, on peut
commence
jouer.
par... Parce que du coup, si j'arrive... Allez, Suisse, on va squeezer, on commence à connaître, même si on est assez étonné des paysages assez fous. Slovénie.
La Slovénie, c'est un pays qui est vraiment très varié au niveau de sa nature. Les gens sont très nature aussi d'ailleurs, ils sortent beaucoup.
Génial.
Et du coup, ça change, c'est vraiment un des petits poumons de l'Europe.
Super. Parce que ça fait plusieurs fois, je me chauffe, c'est sur ma liste, je pense que c'est un des prochains pays où je vais, mais vraiment, Donc,
Ah ouais, c'est super, la Slovénie, c'est
et en
vraiment
plus, j'ai
sympa.
l'impression que ça reprend pas mal de codes, enfin, ou de lifestyle que nous, on aime bien dans nos habitudes d'Européens du Nord, mais avec le côté un peu authentique et nature. Dis-moi si je me trompe, parce que j'y suis pas allé, mais c'est le sentiment que
Ouais,
j'en ai.
non, il y a un peu ça, hein. C'est sûr que des Balkans, c'est quand même vraiment un pays très différent. Et puis en Slovénie, les gens parlent vraiment bien anglais. Tu sens qu'il y a une vraie ouverture, que c'est sympa. Et puis voilà, il y a des sublimes choses à voir. On peut parler de la Socha River, qui est une rivière, la rivière la plus bleue du monde, qui est un bleu turquoise de
Non.
dingue. Et ça vaut le coup. Ouais.
Putain, génial. Ensuite, juste en dessous, t'es passé en dessous de la Slovénie, merde, c'est
Ensuite,
Croatie?
on est arrivé
Non,
en Croatie, ouais.
Croatie.
C'est ça. Et
Vas-y.
puis là,
Non, non,
la Croatie.
petite phrase, vas-y, on va résumer ça en une phrase, à chaque fois, une petite punchline, comment ça se passe. Pour que les gens. Bon, en Croatie, je pense qu'il y a des images, mais c'est intéressant quand même. Je pense pas que tu l'as
Ouais, la
vu comme tout le
Croatie,
monde.
c'est un pays sublime avec pas mal de montagnes en bord de mer, dans lequel l'accès et la communication avec les gens n'est pas toujours facile.
Ah, intéressant.
Ah.
Ah, j'aime ça. Après, c'était Bosnie. T'étais passé par la Bosnie ou Serbie avant?
La Bosnie, ouais.
Bosnie, ok, Bosnie-Herzégovine.
La Bosnie, c'est un pays vraiment très éclectique, avec vraiment un mélange de nations, d'ethnicités, qui est en pleine émergence. En tout cas, la démographie remonte et c'est dynamique et il y a beaucoup à voir.
Chamé. Et Bosnie. Sarajevo, apparemment, j'ai entendu beaucoup de bien.
Ouais, Sarajevo, c'est une ville très très sympa, ça m'étonne pas. Nous, ça nous a beaucoup surpris.
Ouais, bah
Il y a
tout le monde.
ce tourisme de guerre qui fait qu'ils ne rebouchent pas encore les trous, qui te
Ah.
vendent des balles en porte-clés,
Ah, ok, moins fun.
qui fait qu'on en fait quand même quelque chose qui fait bouger, tu vois, et ça fait bouger du monde.
Ok, au moins.
Mais au-delà de ça, c'est vraiment une ville très sympa, avec un vrai brassage simple et cool, quoi.
Chamé. Du coup,
Ouais.
ensuite, t'es descendu en Monténégro.
On est arrivé au Monténégro. Le Monténégro, c'est vraiment un pays de montagne.
Dormitor.
Ouais, le Dormitor et quelques autres. C'est un pays de montagne avec un vrai sens des traditions et de l'accueil. Il y a une vraie ruralité bien sympa au Monténégro.
Albanie, gros pays coup de cœur, ça.
L'Albanie, ça claque, ouais, c'est un pays fantastique. Je pense que
Ouais.
ce n'est pas un pays qui est ouvert depuis très longtemps à cause du communisme et de Hoxha, le dictateur qui a lâché les rênes assez tard. De fait, l'Albanie, c'est un pays qui est surpris, en fait, qui est curieux, tu vois, dans lequel les relations avec les gens sont vraiment très sympas parce qu'il y a beaucoup d'écoute, il y a beaucoup des vrais échanges et c'est très sympa. Dès qu'on sort un peu dans la campagne albanaise, c'est magnifique, quoi.
Chamé. Ensuite, Grèce? Vous êtes parti en Grèce, c'est ça?
Ouais, la Grèce.
Ah, en plus, ce qui est sympa, c'est que vous avez fait la partie que finalement peu de gens font, c'est-à-dire la partie continentale.
Exactement.
C'est ça le
Ouais, c'est
truc.
ça. Voilà. On a beaucoup d'images de la Grèce en tête, qui
Exactement.
sont le tourisme des îles, tu vois. Nous, on est vraiment passé par l'intérieur, par la montagne en Grèce. Enfin, ces montagnes qui sont quand même vivables, dans lesquelles il y avait des refuges, tu vois. Et si je dois décrire le pays comme ça en une phrase, alors évidemment, en Grèce, t'as cette qualité de vie qui fait que les gens sont très slow life, tu vois,
Ok.
on n'est pas tranquille.
Ouais.
Mais la Grèce, c'est un pays sublime, qui vit un petit peu sur ses acquis historiques aussi,
Vieillot.
qui a un petit peu les dents dans l'histoire, tu vois,
Ouais.
et qui a tout le potentiel de faire vraiment quelque chose de magnifique. Et voilà, il faut,
Allez, il faut.
je pense,
Ouais, je vois
il
ce que
faut.
tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Un peu reposé sur ses acquis, puis on est. Hey, c'est la Méditerranée, on prend son temps, les mecs, on prend son temps. Et après, vous êtes remonté sur la Macédoine. Macédoine.
La Macédoine, c'est un pays qui se cherche beaucoup, dont
Ouais.
l'identité historique a été difficile parce que, évidemment, un peu volée ça et là par les Macédoniens qui ne sont pas les Macédoniens d'aujourd'hui, par la Grèce, bref, c'est compliqué. Et la Macédoine, c'est un jeune pays aussi. Il y a
Ouais.
vraiment une démographie super jeune. C'est sympa, il y a beaucoup de choses à voir, il y a des montagnes.
Beaucoup de patrimoine aussi.
Mais ça n'a pas été un coup de cœur dans notre traversée des Balkans, tu vois.
Ah mais je suis d'accord, la Macédoine c'est bizarre, bah, rien que quand tu vois la capitale où en fait Les monuments, c'est un peu. Tu sais, ils en foutent un peu partout, des trucs à moitié modernes, rustiques,
Statue
anciens.
énorme, c'est dingue.
Tu dis, mais qu'est-ce que. Ben, en fait, on sait pas. On se cherche, comme tu dis, on se cherche. Donc c'est un peu
Ouais,
particulier. Il y a pas ce truc qui t'embarque, effectivement, en Macédoine. Enfin, c'est un peu un
d'accord.
ressenti que j'ai eu aussi. Ensuite, Bulgarie, c'est ça?
La Bulgarie, c'est sympa. Il y a vraiment quelque chose qui change. Là, pour le coup, la Bulgarie,
Ouais,
c'est
vas-y.
aussi un pays de montagne, où il y
D'accord.
a très, très beaux massifs. Il y a le point culminant, des Balkans qui se trouve en Bulgarie. Et puis au-delà de ça, les gens sont vraiment sympas. Il y a une vraie
Ah
ouverture.
ouais.
On écrit en cyrillique. Et si je dois décrire le pays, pardon, en une phrase, je dirais que c'est un pays qui a énormément de potentiel touristiquement parlant, avec un tourisme de montagne qui vaut le coup, qu'il faut y aller parce que, y a beaucoup, beaucoup de choses à voir. Et voilà.
Chambé. Eh ben écoute, merci pour ce petit descriptif rapide, mais parce que je trouve ça
Et
intéressant
puis.
en fait que d'essayer de briser aussi certaines idées reçues ou alors essayer de mettre quelques petites images. Quelques petits aperçus audio dans l'esprit des gens, parce qu'effectivement, je pense que la Bulgarie, ils disent la Bulgarie, la Bulgarie, qu'est-ce que. Non, bah non, il n'y a rien qui me vient. Donc, et c'est pareil pour la Slovénie, quand tu mets des images comme la rivière la plus bleue du monde, la plus turquoise du monde, je trouve ça génial, parce qu'il y a des gens qui vont s'intéresser, je pense, à des choses plus près, et qui vont se rendre compte, comme tu disais, qu'en fait, waouh, tu peux être vraiment dépaysé à 2 heures
Bien
de la
sûr, ouais.
France. Et c'est ça
En
qui est.
Bulgarie,
Ouais.
je pense à un endroit vraiment particulier
Ah,
que
c'est
peu de
quoi?
gens connaissent, qui s'appelle Belogradchik,
Ok.
où là, tu as des kilomètres, enfin des dizaines de kilomètres carrés vraiment de formations géologiques qui sont absolument dingues, tu vois. Euh,
Chambé.
ça a rien à, ça a rien à envier à Monument Valley ou à des
Ah ouais.
trucs qui sont dingues, tu vois. Au cœur duquel tu as une vieille forteresse qui a été créée dans l'Antiquité. Une forteresse naturelle avec très très peu de remparts qui s'incrustent vraiment dans le truc. Bref,
Énorme.
des endroits comme ça, visuellement tu déjantes parce que c'est très très spécial, tu vois,
Ouais.
et qu'on n'imagine pas se trouver sur le continent européen, tu vois.
Complètement.
Le désert des Bardenas aussi en Espagne.
Il commence à devenir. Ah, alors, ça, c'est pareil, c'est à cause des réseaux sociaux. Il commence à devenir un peu connu, à
Ouais.
devenir un peu tendance. Parce
Mais il y a plein de
que.
gens.
Parce qu'il y a des fausses. Enfin, tu vois, il y a des filmmakers qui y vont. Parce qu'effectivement, c'est scénique. En fait, t'as l'impression que t'es dans la vallée de la mort aux États-Unis ou un truc comme ça, quoi. C'est un truc assez hallucinant. Ultra désertique, je crois que c'est un des déserts les plus secs du monde, c'est tout petit, mais c'est ultra sec, c'est assez hallucinant.
Je pense que chez les gens qui kiffent le voyage, évidemment, c'est un point qu'ils ont en tête, mais tu as plein de gens qui savent pas que ça existe du tout encore ici,
Ouais.
tu vois. C'est sûr que on en parle même à des journalistes là depuis qu'on est rentré, qui ont pas toujours en
Ah
tête que ce
ouais?
truc existe. Ouais, je t'assure.
Ah, énorme.
Et voilà, il y a plein de coins comme ça en Europe, donc ça a été un régal de tous, pas tous, tu vois, mais d'en mettre le maximum aussi sur cette ligne
De
et de
dingue.
faire délirer tous les gens qu'on croisait avec ce chemin hallucinant, tu vois. Ça a été vraiment plus qu'une ligne, ça a été un truc qui fédérait tous les gens qu'on rencontrait autour du truc, tu vois, en discutant.
Et
Et
qu'est-ce qu'ils disaient les gens? Tu sais, le mec, on va prendre, tu vois, le mec est dans son village en Bulgarie. Tu sais, il est là, il est dans son champ ou sur son tracteur, enfin, il fait sa life. Il vous voit débarquer, vous arrivez à échanger. Déjà, est-ce qu'à ce moment-là, parce que je pense que vu que vous êtes dans des coins reculés et dans la campagne, ça ne devait pas parler super anglais, tu vois, surtout sur cette génération-là.
Non, non, c'est
Comment
clair.
vous communiquez? C'était vraiment. Est-ce que vous êtes tombé dans la facilité, entre guillemets, du Google Translate qui finalement permet d'avoir des échanges un peu plus profonds que juste des signes? Ou est-ce que finalement vous êtes resté sur ce truc de regard, signe, mime?
T'as un peu des deux, si tu veux. C'est sûr que quand t'arrives, tu fais bien de citer le mec sur son tracteur en exemple, tu vois. Quand tu croises le fameux mec en tracteur, bah évidemment, tu essayes aussi de communiquer parce que nous, ça a été le grand jeu. On a essayé de communiquer avec vraiment tous les gens qu'on croisait, tu
Ouais,
vois, sauf
ouais.
dans les grandes villes où ça devient plus compliqué, mais on
Bien
sait
sûr.
pourquoi. Et évidemment, de temps en temps, t'entres plus ou moins dans des degrés, si tu veux, de conversation avec les gens, quoi, allant du simple sourire, clignement d'œil, jusqu'à des conversations dans lesquelles tu as envie, tu as besoin d'aller traduire des trucs, si tu veux. Et ça dépend de ta volonté à toi, vraiment, parce que de temps en temps, il s'agit pas que de l'autre et de son hospitalité, mais aussi de toi, de ton état actuel, tu vois, et de la façon avec laquelle, de ton optimisme dans cette conversation, en fait, tu vois. Et puis voilà, de temps en temps, les gens s'arrêtent, tu vois, ils descendent son tracteur et tu commences à baragouiner des trucs dans la langue.
Yes.
Et de temps en temps, tu vois, tu peux prétexter parfois des trucs à la con, faire semblant de pas savoir exactement où tu vas. Et puis hop, tu démarres un truc, tu vois. Et puis ensuite, tu te mets à papoter avec les gens. Souvent, on n'y a pas été direct avec la question qui tue sur son
Ouais.
bled, ou tu vois.
Bah oui,
Mais
j'imagine.
on commence
Dis-moi, où
par
est-ce que tu
discuter
vas
un
avec ton
peu.
tracteur et comment ça se cultive ce que tu fais? J'ai un truc. C'est
Et
tout
puis
ça dans un
surtout,
bulgare impeccable, évidemment.
on a un outil magique qui était ma casquette.
Ah
Je
ouais?
te la montrerai tout à l'heure. Ouais, si tu veux, ma
C'est quoi cette
casquette.
casquette? Bah très bien, vu que tu l'as pas là et que tu peux pas me la montrer, décris-la nous pour les gens qui ne pourront jamais la voir directement.
Alors, c'est une casquette assez magique qu'on a fait faire avant de partir, sur laquelle tu as à peu près toute la carte de l'Europe, tu vois, avec évidemment le tracé.
Ah, nice!
Ouais, c'est plutôt classe et en plus vraiment très très utile. À la base, on n'imaginait pas que ça nous servirait autant.
Mais en fait, parce
Et
qu'en
en
fait,
fait, ça a été
tout de suite, tu mettais une image sur ce que tu disais aux gens, en fait, qu'en gros, vous étiez en train de faire ce trajet-là.
Tu montes la casquette, tu veux, et hop, tu lui fais un petit signe que tu marches comme ça, et ça marche toujours, quoi. Il n'y a pas besoin de parler la langue, les gens comprennent direct ce que tu fais, et même sans faire d'effort, du coup, tout le monde comprenait, tu vois.
Et c'était
Et donc,
quoi la réaction? C'était, vas-y, viens, on prend un canon, viens manger à la maison, ou genre, waouh, t'es taré, je me casse, tu vois.
ouais, des gens qui éclatent de rire, des gens qui nous disent, mais vous êtes complètement fous, prenez la voiture, ça, c'est beaucoup plus facile, quoi. Il y a plein de pays dans lesquels les gens se rendent pas compte, en fait, que marcher, c'est un truc où il n'y a pas de culture du plaisir de la marche, tu vois.
Ouais.
Pour eux, marcher, c'est un truc que quand t'as pas les moyens, tu marches.
Ouais. Ah,
Et
c'est
puis, il y a
ça.
des gens il y a des gens qui saluent l'effort, tu vois. Il y a des gens, évidemment, tu leur racontes ça, d'un seul coup, ils disent, mais attendez, asseyez-vous,
Attends, on va te payer un canon
déjeuner
parce que
là.
rien que pour ça, voilà, c'est pour moi. Le déj, c'est pour moi.
Exactement, bien sûr, en France et tout, beaucoup, en
Ah ouais?
Suisse, en Italie, on nous a souvent fait le coup du le déj, c'est pour moi, tu vois,
Putain, génial.
passant dans les bleds, ouais. Et puis il y a des pays aussi dans lesquels les gens t'invitent chez eux, ou d'un seul coup, ils
Justement,
ont
c'est
envie de
ça que j'allais
partager une
dire.
tranche de vie, quoi.
Est-ce que t'as des, là, comme ça, des anecdotes, des moments, des rencontres qui te viennent en tête que t'as envie de raconter parce que ça t'a touché, ça t'a fait sourire, ça t'a surpris, ça t'a fait peur, j'en sais rien. Des rencontres qui te viennent tout de suite comme ça, que tu pourrais nous... Père Castor, raconte-nous cette histoire.
Ouais, bien sûr. Écoute, une rencontre assez sympa. Dans nos voyages de préparation, on était passé en Espagne au refuge de Gorriz.
Ok.
On était arrivé là-bas après 35 km de marche, et moi, je m'étais vraiment senti pas bien du tout.
Merde.
J'étais tombé dans les pommes, si tu veux, mais
Ah
j'avais
oui.
fait une espèce de crise un peu sérieuse d'abord, et j'étais vraiment très 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 mal. C'est un gros refuge, il y a du monde, c'était l'été. Bref, les mecs, ils n'avaient pas que ça à faire, et nous, on avait la tente dehors. Tout le monde s'est occupé de moi, super sympa, tu vois, et nous, on est repassé les voir, on a mis l'endroit sur l'itinéraire, et on est passé chez ce mec,
Ah
Luis
yes.
Munoz, qui vit avec sa femme et sa petite fille. Tu vois, là, on n'était plus au refuge, mais on était chez eux en Espagne. Et on a vécu avec eux, voilà, 3 jours, tu vois, très
Putain,
sympa, où d'un seul
génial.
coup, tu rencontres les amis. Et voilà, mais ça, c'est un exemple de centaines de rencontres, enfin, de centaines, ouais, il y en a peut-être pas des centaines comme ça, tu vois, mais il y a beaucoup de trucs qui nous ont touchés. En Slovénie, on est arrivé chez ce mec tétraplégique, qui a un hostel, tu vois, ouais, un délire.
Il est tétraplégique et il gère un hostel. Ah, le mec, il est bon.
Il gère un hostel qui est aussi une association, en fait, qui est surtout une association,
Ah,
c'est-à-dire que
génial.
l'hostel, il n'y a pas toujours du monde dedans,
Ouais.
mais il fait 12 milliards de trucs, juste il crée plus d'événements qu'il n'y a de jours de la semaine, il est actif à l'échelle du village, à l'échelle de la région et du pays, tu vois. Il fait énorme aussi pour la peinture chez les handicapés. Il
Waouh.
fait un tas de trucs, et ce mec-là nous a beaucoup, beaucoup touchés quand on est passé chez lui. Il s'appelle Beno. Et puis voilà, des gens super touchants, tu vois, avec qui tu échanges pendant quelques jours. Premier jour, tu arrives, personne ne se connaît, et puis tu pars au bout de 4-5 jours, et c'est des grosses embrassades, et voilà quoi.
Ça tue ça. C'est moi, il y a un truc sur lequel j'aimerais qu'on revienne aussi, qui est une question, je dirais, un peu plus pragmatique, parce que c'est intéressant aussi. J'aime rendre les choses réalisables. C'est-à-dire que quand quelqu'un qui écoute ce podcast et qui dit, putain, moi aussi j'ai envie de partir à pied en Europe et tout, moi aussi je vais rencontrer Luis Nunez, qui est un petit refouche, Et déjà, en fait, de quoi tu as besoin pour partir comme ça en vadrouille à pied? Qu'est-ce que tu mets dans ton sac techniquement? Rapidement, dis-nous ce que tu mets dans ton sac et justement, qu'est-ce que tu prends pas ou est-ce que tu as pris et que surtout, en fait, tu dis, vas-y, laisse tomber, ça nous a pas servi.
Ouais, ça a été des grosses questions pour nous parce que évidemment, on avait pas mal d'électronique dans les sacs, tu vois. Dès le départ, on a ce parti pris de faire ce voyage justement en essayant de laisser une trace, en essayant de témoigner de ça. Tu vois, il y a pas mal de gens qui entreprennent des grandes traversées européennes, que ce soit en vélo ou à pied. C'est pas souvent évident de documenter tout l'ensemble
Bien sûr.
avec le contenu d'un sac à dos, tu vois, ou de sacoche sur un vélo.
Clairement.
Et c'est un peu un pari qu'on s'est fait parce qu'on a trouvé ça assez intéressant d'essayer de témoigner, tu vois, de porter vraiment un regard un peu plus global sur l'Europe aujourd'hui. Et dans nos sacs, on a fait ce gros sacrifice d'avoir à peu près 12-13 kilos d'électronique, tu vois.
Répartis dans les deux sacs.
Réparti dans les deux sacs, mais il y avait surtout un sac dans lequel il y avait beaucoup d'électronique. L'autre sac, du coup, avait plus de trucs, tu vois. T'imagines, on essayait de se répartir les trucs de façon à ce que tout le monde se sente à peu près confort.
Attends, mais vous aviez combien quasiment en permanence? Mais j'imagine que ça variait peut-être en fonction de l'eau et de la nourriture dedans quand vous partiez en montagne. Vous aviez combien sur le dos chacun?
Ça dépend un peu de la saison. Si tu veux, t'as l'été, t'as l'hiver. Donc là, ça fait un gros changement quand même.
Allez, on
T'as
part
ce
sur
truc.
des mecs qui se chauffent pour un petit trip d'un ou deux mois en Europe et du coup ça
Ouais.
part en été.
Et ça part en été. T'as pas besoin de grand-chose, franchement. Si t'as pas l'électronique, il s'agit de prendre une tente légère. Il faut arrêter de prendre des trucs de ouf, tu vois. Nous, on n'avait pas de tente autoportante, si tu veux. Donc t'as pas de structure. Tu montes ça avec tes bâtons, mais c'est assez pratique. Tu fais toute l'économie de poids des structures de la tente. Et puis d'un sac de couchage, pas forcément d'un truc de dingue, tu vois. Ce que tu as besoin, c'est surtout de l'isolation qui est à l'intérieur et pas forcément d'un truc très lourd. Nous, on a des sacs de couchage qui sont très légers avec beaucoup de plumes dedans. Ça a fonctionné, ça a
Ouais, maintenant
gardé le.
ça marche bien en plus. J'imagine un
Ouais.
tapis de sol super bon aussi.
Un tapis de sol, on a des tapis de sol gonflants, si tu
Ouais.
veux. Et puis ça marche bien, ça. Tu as besoin de quoi d'autre? Ça, c'est ce qu'on appelle déjà
Réchaud? Mais non, mais
ta
justement,
base.
comment vous mangez? Parce que je pense que les gens, ils disent toujours, ouais, mais quand tu pars à pied, t'es dans la forêt, tu manges comment, tu bois comment? Tu vois? C'est quoi la réponse à ça?
Nous, on a fonctionné avec plusieurs genres de réchaud, tu vois. On a eu le réchaud à bois dans certains pays où
À
c'était
bois.
facile. Il y a peu de réglementation. C'est comme un petit four, en fait, à bois, tu vois, sur lequel tu poses ta popote, et t'alimentes ton four et tu souffles un peu, tu vois, et t'imagines ta locomotive, quoi. C'est le même délire.
Ah ouais, t'as intérêt à anticiper la fin, quoi. Parce que si t'as la dalle ou que tu veux un café direct, et au
Ça
moins
peut aller
ça. C'est
assez
quoi?
ça
Non mais
peut aller
c'est.
assez vite.
Ah ouais? Ah ok, d'accord, autant pour moi.
Et puis on a eu quoi d'autre? On a eu un réchaud à essence parce que quand même il y a pas mal de bleds dans lesquels c'est assez facile de trouver de l'essence. Tu vas à
Il n'y
la
a pas
pompe,
du gaz,
tu
ouais.
demandes 50 centimes et ça fonctionne, tu vois. Alors
C'est
que du
ça.
gaz avec les bonnes cartouches et tout, c'est parfois compliqué. Donc voilà, ça dépend, tu t'adaptes, tu vois. Mais on a toujours eu un réchaud, ouais, même en été, parce
Clairement.
que c'est quand même sympa de te faire un petit café et ça pèse pas très lourd.
Est-ce que du coup, pour tout ce qui est nourriture, majoritairement, vous alliez choper des courses et vous faisiez à manger, ou vous allez manger, ou parce que vous mettiez énormément d'efforts dans la marche et dans le bivouac, vous offriez entre guillemets ben, les petits restos, les petites brasseries, les petites choses comme ça. Enfin, quand je dis
De
brasserie,
temps en
c'est.
temps, on s'offrait un petit resto, tu vois.
Ah, ok,
L'idée,
mais
c'était
c'était pas tout le
d'avoir.
temps.
Non, c'était pas tout le temps. L'idée, c'était d'avoir quand même un budget, si tu veux, nivelé sur l'ensemble de 10 euros par jour et par personne.
Ah
Un
ouais.
budget qu'on a plus ou moins tenu facilement en fonction
Non.
du pays. T'imagines, genre en Suisse, c'est pas évident d'imposer un budget comme ça.
Ah bah en Suisse,
Ça a
ouais.
même été
Bah tu mangeais
un
des
principe.
concombres, quoi. Tu mangeais des concombres, quoi. Et tu dormais dehors.
Voilà. Alors que c'est interdit de dormir dehors, tu vois.
Ah ouais, en Suisse?
Donc, le camping sauvage est interdit, ouais.
Ah
Donc,
je. Ok.
légalement, c'est difficile de vivre avec 10 euros par jour et par personne en Suisse, tu
Ok, c'est bon à
vois.
savoir.
Et puis, il y a des pays dans lesquels ça a été beaucoup plus facile de vivre avec 10 euros par jour et par personne, en fonction des saisons aussi. T'imagines que quand tu es en été et que tu te fais inviter parce que tout le monde est en mode fête et que c'est sympa et tout, c'est pas pareil que quand tu es en hiver et que tous les gens sont rentrés chez eux à 17h parce qu'il pleut, et que toi aussi, t'as pas forcément envie de te mouiller, tu t'irais bien dans un petit hôtel, enfin bon, t'imagines quoi.
C'est vrai qu'on pense pas à ça, mais l'hiver, il est clairement moins évident en Europe, tu vois. C'est clairement même, comme tu dis, c'est le moment où là, c'est un peu la survie. D'ailleurs, est-ce que l'hiver, ça vous a impacté comment? Est-ce que ça vous a finalement fait prendre conscience peut-être de certaines choses? Est-ce que, tu sais, il y a aussi ce côté que j'aime bien en voyage, c'est quand tu as quelque chose après lequel tu es galéré à l'obtenir. Je trouve qu'il a 10 fois plus de sens dans notre vie aujourd'hui, qui est très dans l'immédiateté. Tu sais, j'ai faim, je vais dans un resto rapide. J'ai envie d'appeler un pote. Enfin, tu sais, je veux voir un pote, je l'appelle. Je vais me faire un kiff. Je vais sur internet pour regarder, pour rigoler. Enfin, tout est instantané. Dans le voyage, il y a ce côté un peu, et surtout dans le côté marche, où tu galères, tu vois, avant d'obtenir quelque chose. Est-ce que vous avez eu cet effet-là et qu'est-ce que ça t'a apporté ou quelle leçon ça t'en a tiré?
Bien sûr, ouais, franchement, pour nous, ça a toujours été un des gros trucs de la marche. C'est-à-dire que quand on a bien chié toute la journée, tout est très bon, tu vois.
C'est
Tu manges un
ça qui est
sandwich,
vrai.
t'arrives, t'as un sandwich, c'est le meilleur sandwich de la Terre, tu vois. Quoi que
C'est
tu
ça.
fasses, quoi que tu fasses en fin de journée, quand on a vraiment, vraiment chié, c'est le meilleur, tu vois. Et je pense que du coup, il y a des gens qui sont venus avec nous. On a eu 36 invités.
Non, 36. Ah ouais, c'est pas genre deux potes qui sont venus.
Non, non, il y a eu 36 personnes qu'on connaissait, pour certains, qu'on connaissait pas pour d'autres, qui nous ont rencontrés via les
Génial.
réseaux sociaux, tu vois, par exemple, qui sont venus marcher, parfois des très très gros marcheurs, des gens qui ont fait des trucs assez dingues, parfois des néophytes, tu vois. Et je pense que c'est un truc sur lequel tout le monde s'accorde, c'est que voilà, la difficulté, ça rend tout ce que tu trouves sur ton passage vraiment plus beau, plus sympa, tu vois, et t'apprends à profiter de choses beaucoup plus simples, évidemment, parce que tout n'est pas donné, parce que t'en, voilà.
Tu sais, ça me parle parce que je vois les jeunes générations en fait qui sont, tu sais, qui sont blasées, qui sont paumées, qui ont goût à rien, qui n'arrivent pas à trouver leur voie, qui n'arrivent pas à trouver leur passion. Mais malheureusement, je trouve que c'est parce qu'en fait, on est trop gâtés, cette génération-là est trop gâtée, tout est tout cuit dans le bec. Et que du coup, c'est un peu comme, je pense qu'il n'y a rien de pire pour moi, je me dis d'être un enfant de riche, tu sais, de très riche. C'est comme si on te donnait un jeu vidéo et que tout était fini. Tu pouvais même pas y jouer, c'est déjà fini en fait, tout est déjà résolu. Et que quand
Ouais,
t'as pas
je
de...
vois.
Tu vois ce que je veux dire? On donne une console à tous les jeux, mais tout est fini. Tu vois, tu t'arrives, tu peux aller partout, t'as pas à galérer pour obtenir des niveaux, des trucs. Enfin, en fait, c'est juste, c'est là. Voilà, c'est tout cuit dans le bec. Bah, tout cuit dans le bec, ça a pas de saveur, en fait. Et je pense que c'est quelque chose... Alors, je suis pas du tout pour tout ce qui est service militaire et tout. Mais en fait, à l'époque, je pense que ça t'inculquait un espèce de... Waouh, dans la vie, en fait, tu peux galérer ta race. Et que du coup, quand tu retrouves une vie où c'est un peu plus doux... T'as quand même conscience de ça en fait, parce que au fond de toi, t'as eu un truc tellement traumatisant, parce qu'à l'époque c'était plus traumatisant que vraiment bien. Ben, ce truc-là, il te rappelle certaines bases que malheureusement, en fait, à aucun moment on a aujourd'hui, surtout les jeunes. Et même aujourd'hui, hein, quand les gens ils partent en voyage, sur ce côté un peu, alors je le critique pas du tout, je l'ai vécu, mais c'est ce côté un peu très facile, voilà. Puis maintenant, le tourisme est rendu, en fonction de certaines destinations, vraiment. Un peu aseptisé, tu vois, un peu tout facile, un peu tout comme ça. Et je pense que, tu vois, le genre de trip que tu fais, que vous avez fait, il redonne du sens en fait à des choses que je pense en fait dont on se rend même plus compte en fait dans notre quotidien en fait, tu vois. Tu vois le
Après,
truc con, le
Et tu
robinet,
vois,
putain, une douche chaude. Mais ça,
bien
mec,
sûr.
quand tu reviens de voyage, attention, ton
Ouais,
robinet, tu pètes ta tête dessus en fait.
c'est clair. Mais je pense que c'est un truc sur lequel tout le monde est assez d'accord. Enfin, en tout cas, aux quatre coins de l'Europe, nous, ce qu'on a pu voir, c'est que c'est quelque chose que les gens comprennent, tu vois. L'effort de la marche, l'effort de enfin, marcher. Tout le monde peut marcher, sauf des gens qui ont un handicap, tu vois. Je pense bien fort à eux, quoi. Mais c'est quelque chose qui est très humain. Et qui est profondément humain même. Et du coup, quand tu racontes ton histoire, c'est quelque chose qui fédère, tu vois. Les gens se rendent compte qu'il y a cet effort derrière qui fait que si tu arrives là, c'est pas juste par hasard, quoi. C'est
En fait,
que
t'obtiens un espèce de respect instantané en fait. Quand les gens ils ont compris ce que t'as fait, tu fais ah ouais, ok. Genre ok, t'as rien besoin de me dire, en gros, je
ouais,
trouve déjà que t'es un mec cool en fait. Et tu gagnes un
c'est sûrement
capital sympathie et respect que
exactement.
forcément t'arrives, bonjour, machin. Et ça, je pense, c'est fort. Qu'est-ce que, dans toutes ces heures de marche, à quoi on pense? Je pense que tu sais, il y a un moment quand tu es en marche et que tu fais 50, 40 kills, même 20 kills, même 10 kills, tu es en mode machine. C'est un pas après l'autre, tu laisses ta tête, mais tu es dans ta tête. Tu n'es pas en train de jacter tout le temps avec Marie, salut, tu vois, machin. Non. À quoi tu penses et qu'est-ce que peut-être tu as retiré de tout ça?
Écoute, tu penses à pas mal de choses. Ça dépend un peu de quand, tu vois. Souvent, déjà, tu penses à qu'est-ce qui va se passer ce soir.
Ah, donc tu es quand même dans la pensée d'un futur très proche, finalement. T'es pas dans
Ouais,
la...
où la pensée. Ça dépend des terrains. Honnêtement,
Ah ouais?
ça se réduit à ça parce qu'il y a des terrains dans lesquels tu marches comme un robot, tu
Ok.
vois,
Tout
où
ce qui est
vraiment c'est
plaine,
ça.
tout ce qui est chemin...
T'es sur une piste de terre, sur une plaine, exactement, un chemin facile. Tu marches sans trop te soucier du truc, tu vois. Et du coup, t'as pas ce côté méditatif de l'instant qui est offert, si tu veux, par la marche en terrain beaucoup plus chaotique.
Parce que t'es qui t'oblige à être concentré finalement, c'est ça.
Qui t'oblige à être concentré sur tes pas. Et du coup, d'un seul coup, c'est gauche, droite, tac, tac, tac. Et t'es vraiment dans le présent. Tu regardes ce qui se passe, les formes, les trucs, les machins. L'air, est-ce que ça bouge, est-ce que ça bouge pas? Bref, t'es concentré un peu sur là où tu mets tes pieds. Et c'est une grosse forme de méditation. Enfin, c'est de la
Complètement.
méditation pure et dure, tu vois.
Ouais.
Donc t'as un petit peu ces deux trucs. Et sinon, t'es dans des pensées vagues, tu vois, qui s'évadent avec ta marche comme ça. Et c'est un peu de la pensée automatique. C'est assez rigolo, quoi. Parfois, tu
Mais
penses à des trucs de futur proche, comme tu dis, mais tu peux penser à tout quand tu marches.
est-ce que justement, tu sais, quand tu pars pour faire un break, c'est-à-dire que tu en as eu ras-le-bol de la vie, peu importe que la vie que tu avais, mais tu en avais marre ou tu avais besoin d'autre chose, tu pars inconsciemment t'enfermer un peu dans ton cerveau parce que ton quotidien fait que tu vas être vachement dans tes pensées, surtout si tu es sur une plaine, on s'est compris. Est-ce que... Et ça, c'est une vraie question, moi qui n'ai pas marché autant à chaque fois sur des grosses sessions et des grandes durées. Est-ce que ça t'enferme pas sans que tu t'en rendes compte dans la rumination du passé, du négatif? Ou est-ce qu'au contraire, ça va t'emmener dans des... Putain, tu t'es en train d'essayer de créer ton futur quotidien, tu vois? Je sais pas.
Je pense que pour nous, en tout cas, on avait ce projet, tu vois, qui nous a demandé pas mal de réflexions, qui nous a demandé, OK, comment est-ce qu'on veut pousser le truc plus loin? Quel voyage, quel village, pardon, on veut voir? Quel voyage on veut faire aussi en permanence, tu vois? Il y a plein de choses qu'on avait envie de montrer, des plans qu'on changeait, l'itinéraire à prévoir, tellement de petites choses, tu vois, qui entraient en compte, en fait, un petit peu dans ce quotidien. Qui changeait tout le temps, mais qui avait quand même des éléments de routine. L'autre jour, il y a un journaliste qui nous a posé la question de la routine, tu vois. Et tu as aussi une routine, je pense, qui peut
Ouais.
s'installer en voyage, une
Clairement.
façon d'avancer, tu vois, dans ta journée. Et pour nous, il y avait des trucs de routine qui allaient de pair avec cette grosse surprise, tu vois, où tous les jours, c'était une surprise. C'était la routine du « et quoi après, quoi ?»
Mais du coup, tu réponds pas à ma question. Est-ce que du coup, c'était quand même plus dans la projection ou dans la rumination?
Plus dans la projection que dans la
Ok.
rumination, c'est ce que je veux
Ok.
dire. Avec
Ok.
le projet, on avait toujours tellement de choses auxquelles
Ok.
penser
Ouais. Ok.
que ça nous a laissé assez peu de temps pour l'introspection et la rumination, de trucs qui se sont passés et tout, tu vois. Où
Nice.
là, je veux dire que ouais, on n'a pas eu beaucoup eu ce genre de pensée, en fait.
Nice.
On n'avait pas la place.
Qu'est-ce qui t'a le... En faisant ce voyage, qu'est-ce qui t'a le plus surpris? Je sais pas, peut-être humainement ou en termes... Enfin, toi, qu'est-ce qui t'a le plus surpris? Est-ce que c'est les gens? Est-ce que c'est les paysages? Est-ce que c'est, je sais pas, toi-même sur
C'est les
certaines
gens.
phases?
Je
Ah ouais?
pense que c'est les gens, tu vois, où évidemment, bon, bah voilà, je suis pas un fan de la télé, si tu veux. Mais
Ouais.
quand on regarde les infos, on n'a pas forcément beaucoup d'optimisme par rapport à ce qui va se passer et
Vraiment?
à quelle sauce tu vas être mangé en traversant l'Europe aujourd'hui, tu vois. Il se trouve qu'on n'a pas eu une galère humaine en 10 500 km.
Et 2 ans.
Donc,
Pas mal.
ça compte, ouais, 2 ans, tu vois. Pas eu une galère humaine, pas eu une embrouille, tu vois. Donc voilà, ça compte. Je pense qu'à Paris, en 2 ans, des embrouilles, il y en a qui pleuvent, quoi, parfois.
Bah, 200, 365 fois 2, ça fait combien? Non, mais tu sais, non, mais ça, c'est un
Donc,
des trucs qui choque le plus. C'est ce.
ouais.
Je parle pas des autres villes que je connais pas, mais cette ambiance, en fait, électrique, palpable à Paris, elle est. Qui finalement est juste la manifestation d'un espèce de mal-être, en fait, peu importe à toutes les couches sociales, hein, ça impacte tout le monde. Et du coup, ça c'est super intéressant. En fait, c'est les gens. Tu as été surpris de voir à quel point les gens sont
Les gens
bienveillants
sont
quand même?
bons, les gens sont bienveillants, ouais, exactement. À quel point on a été facilement en contact avec tous ces gens qui sont prêts à partager un truc, si tu veux, Bah, sacrifier, parce que c'est pas du tout un sacrifice du coup pour eux, mais qui sont prêts à profiter d'un morceau de leur journée avec toi, tu vois, parler, à être curieux, à te raconter leur vie aussi. Et ça a été super intéressant de voir qu'on a été aussi souvent invités chez les gens à découvrir un petit bout de leur vie, tu vois.
Est-ce que, et ça c'est une question qui me vient, je crois que j'ai jamais posé, mais est-ce que les gens que tu as vus, et surtout quand tu es dans les patelins, est-ce que le téléphone, le smartphone était présent dans leur vie, ou est-ce que tu le voyais, ou est-ce qu'inversement, tu as vu, après ça va être un peu cliché ma question, mais est-ce que moins le téléphone était présent dans leur vie et plus c'était facile d'interagir et de passer des moments avec les gens?
Oui et non, franchement, j'aimerais bien te dire le contraire. Il se trouve qu'aujourd'hui, quand même, même dans la campagne du fond de l'Allemagne, le téléphone est là, le smartphone est là. Enfin, parfois, c'est très basique, si tu veux, mais avec ce basique, tu envoies quand même des messages sur Facebook et des trucs. Et s'il y a bien une constante en Europe, c'est qu'on a vu pas mal de gens avec le cou cassé, tu vois. Et ça fait se poser des questions, évidemment, parce que c'est généralisé, tu vois, des gens de tous âges qui passent leur journée, tu t'arrives dans des bars parfois au fin fond des villages et tu vois plein de pépés qui sont tous sur leur smartphone, ouais.
Ah tu vois, putain, mais tu vois, je suis presque, pour une fois, je suis content de ma question parce que, en fait, dans ma tête, je pensais taper dans un cliché qui était encore présent, tu vois, dans ce côté, genre, ouais, bon, bah, le smartphone génération vraiment hypnotisé, un peu zombie, bah, comme, voilà, comme nous. Et en fait, bon, il y a des garde-fous, les mecs s'en foutent complet. Non, en fait, s'ils ont réussi, c'est partout, en fait. Ok.
Bien sûr, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout cette éducation ah, mais trop de smartphones, tu vois, dans certains pays, le smartphone est arrivé dans les campagnes et les gens sont vraiment, genre, absorbés, tu vois, et c'est dingue, quoi.
C'est la
C'est
nouvelle
pas tout le
télé.
monde, hein, mais c'est la nouvelle télé, exactement, ouais, et voilà.
Et ça vous a. Et tu sens que ça. Est-ce que tu sens que des fois ça a pu peut-être empêcher certaines rencontres d'aller plus loin, dans le sens où justement, bah les gens ils sont occupés. Avant, t'avais rien à faire. Donc il y a un mec qui passe, c'est drôle, c'est sympa, on va rigoler, on va t'inviter. Le smartphone fait que techniquement tu peux toujours avoir un truc à faire.
Moi, je pense qu'il est arrivé différemment et que dans ce genre d'endroit, tu vois, c'est pas du tout rare de voir des gens qui sont là, sur leur smartphone à zioter, dès qu'il se passe rien, en fait, tu vois, et qui sont assez ouverts quand même, pour toutes les rencontres qu'il peut y avoir. Et puis, je pense aussi que le smartphone, mine de rien, a permis sûrement pas mal de rencontres du fait qui rendent les gens plus aptes à faire des traductions, des trucs comme ça, tu vois, et que tu peux aller chercher un petit peu plus, la vérité, les conversations, tout ça. Et du coup, ça a été souvent un vecteur de profondeur, quoi.
C'est vrai que c'est mon, il y a mon pote Steven qui me disait que où j'avais vu son film d'ailleurs qu'il avait fait avec le petit reporter, aller le voir sur le Kyrgyzstan, et il disait dans le film que en gros ils étaient partis sans téléphone, tu vois, et ils voulaient pas servir de leur téléphone un peu à l'ancienne, qu'avec une carte et que en stop. Mais que les gens avaient un téléphone, même au Kyrgyzstan, tu vois, ils ont un téléphone. Et qu'en fait, heureusement qu'eux en avaient un, parce que 5 heures de bagnole sans pouvoir échanger vraiment juste un truc, t'es juste des signes, tu te fais vite chier, entre guillemets. Parce que dans une voiture, c'est pas comme une interaction dans une ferme où tu vas mettre la main à la pâte, tu vois. Et il
Bien
disait,
sûr.
en fait, pour une fois, je dois avouer que le téléphone a augmenté la communication, l'a rendu plus riche, en fait. Contrairement à ce qu'on peut des fois. Et c'est vrai que je pense que c'est comme tout. Tu sais, je pense que le smartphone ou les réseaux sociaux, ça c'est mon point de vue, hein, c'est comme un marteau, c'est un outil. Soit tu construis des maisons, soit tu casses des choses avec. Et
Exactement, on est bien d'accord.
c'est l'utilisation qu'on en fait. Malheureusement, bah, t'es vite tenté de. T'as planté un clou, oh putain, il y a un vase un peu stylé, vas-y, boum, je vais tout casser avec. Enfin, t'as envie de faire des conneries, t'as envie de te laisser aller, en fait. Et tu
Je
sens t'en
pense qu'il y a
rendre
plein
compte.
de gens, j'imagine que c'est pareil pour toi, qui te disent que voilà, les réseaux sociaux, il n'y a que de la merde dessus et que c'est un peu difficile. Et puis, je pense que c'est à nous aujourd'hui de faire des réseaux sociaux ce qu'on veut qu'ils soient, toujours, pour s'en rappeler, quoi.
Exactement.
Et que voilà, on est la demande qui crée l'offre aussi, que plus les gens sont friands de conneries, plus on trouvera de conneries qui nous est envoyées sans qu'on la demande. Et que voilà, c'est à nous de créer l'intérêt, c'est à nous de profiter de cet intérêt et d'utiliser tout ça, tous ces outils, comme tu dis, bah, pour des bonnes raisons, quoi.
Enfin, je suis 100% d'accord avec ça. C'est vraiment ce côté où il y a un moment. On critique les réseaux sociaux, mais est-ce que c'est pas juste un amplificateur des vices qu'on a au fond de nous, tu vois?
sûr.
Et les vices, c'est facile d'y tomber, c'est facile de s'y conforter, de s'y contenter. Et je trouve que ça nous, en fait, ça nous renvoie juste une image de nous. On dit, putain, c'est pourri. Ben, en fait, c'est peut-être un peu ce qu'on est au fond.
Bien sûr. Ouais.
Et je trouve que, ouais, pardon. Et je disais juste, voilà, c'est ça. C'est, en fait, il faut juste reprendre la main au truc, tu vois. Il faut juste avoir un peu de discipline et se regarder en face et dire, est-ce que c'est ça que j'ai envie de faire? Est-ce que c'est ça que j'ai envie de consommer? Tu vois, c'est un peu ça. C'est comme tout. C'est tout dans la facilité ou pas, en fait.
C'est clair. La presse people existe parce qu'on la demande, quoi.
Justement, on est vu qu'on est un peu sur de la philosophie de comptoir, de fin fond d'un bar, d'un troquet de la Bulgarie. Si tu devais redescendre de ta montagne dans laquelle tu as souvent été en marchant, avec les tables de la loi, tu vois, les 10 grandes leçons
Ouais.
que tu as ramenées de ce voyage de 2 ans, c'est quand même pas rien, je pense que ça te change, ou en tout cas ça te fait cliquer dans ta tête. Ce serait quoi les 10 grandes leçons que tu retiendrais?
Ok, la première, c'est de jamais perdre son goût pour la surprise, de se laisser surprendre, vraiment. La deuxième, ça va être de bien faire attention à son propre état, de pas se laisser embarquer et surtout pas imaginer en fait qu'on peut tirer des préjugés un peu trop hâtifs qui vont nous conditionner dans un état d'esprit en visitant tel ou tel pays. Ça va trop vite. Une ou deux mauvaises expériences et tu peux vite te mettre un petit peu
Ouais, je
un
vois.
petit nuage qui t'empêche de profiter du truc vraiment, tu
Génial.
vois. Ensuite, bah évidemment, je dirais attention à protéger tous ces endroits magnifiques. Veillez à ne pas les laisser autrement que vous les avez trouvés, si ce n'est mieux, évidemment.
C'est fort.
Pareil. Un autre truc, évidemment, pour les populations locales, pour les villages, y a plein de choses. Je pense que quand on cherche un tourisme, il faut aussi savoir montrer aux gens qu'on cherche pas forcément du luxe, qu'on cherche pas toujours des choses incroyables, parce qu'il faut comprendre et il faut aider à tous ces gens, surtout à comprendre que le tourisme qu'ils doivent envisager pour leur pays, c'est sans doute un tourisme dans lequel on croit, un tourisme vert, et ça peut aller
À
assez
taille
vite
humaine.
avec des petites exigences,
Ouais.
de laisser imaginer à ces gens qu'on veut tous des trucs qu'on veut pas en fait. Ensuite, je dirais évidemment pour tous les marcheurs, partez léger. Partez léger parce que ça change carrément la donne, quoi. C'est la vie de partir léger. On a été un assez mauvais exemple avec l'électronique, mais pour tout le reste, je pense que sinon, on peut avoir facilement un poids qui est de, allez, 5-6 kilos max en été, tu vois.
Tu nous as pas dit ce qu'il y avait dedans, à part d'ailleurs la
Ouais,
tente, le
bah,
sac.
c'est
C'est
qu'il n'y a
trois
pas
caleçons.
grand-chose.
Mais il y a la
Trois
nourriture
caleçons,
quand même.
c'est déjà trop. J'ai deux caleçons, tu sais.
Ouais, un que tu mets, un que tu laves.
J'en ai un sur. Ouais, exactement. Et je sais qu'il y a des gens qui font avec un et qui le lavent
Sur eux.
en cow-boy style, tu vois, ou sur eux, qui le laissent sécher. Enfin, il y a des mecs qui voyagent vraiment avec rien. Nous, on s'est beaucoup inspiré des gens qui font du thru hiking aux États-Unis, qui
C'est
se font
quoi?
des groupes. Tu t'as jamais entendu parler de l'Appalachian Trail, du Pacific Crest Trail ou du Continental Divide, je sais pas.
Si, j'ai reçu un mec qui avait fait la Pacific Trail.
Ok, bah écoute, c'est assez intéressant. C'est des gros itinéraires de randonnée aux États-Unis qui sont super connus. Je pense que c'est des sortes de religions aux États-Unis pour certains marcheurs. En tout cas, c'est très intéressant de voir la conception qu'ils ont de la randonnée longue distance, qui est bien différente de la nôtre, dans laquelle il y a pas mal plus de fun d'ailleurs. Grosse merde. Ouais. Et nous, on s'est pas mal inspiré de tout ça, de l'équipement ultra léger. Et tout ça fait la diff, quoi.
Mais en fait, pour finir, avant de continuer l'étape de la loi, parce que quand même, là, on est en train de parler, c'est sérieux quand même, l'étape de la loi, la nourriture, ça pèse direct une blinde, parce qu'il faut de l'eau. Vous aviez combien de litres d'eau et qu'est-ce que vous aviez comme nourriture? Vous nourrissiez de quoi quand vous étiez en montagne?
Franchement, ça dépend des moments, tu vois. En montagne, l'hiver, l'eau, elle est partout, quoi. Tu fais fondre un petit peu de neige, tu rajoutes des sels minéraux et t'as de l'eau.
Ok.
Évidemment, l'eau de fonte, il n'y a pas de minéraux dedans, donc il n'y a pas grand-chose pour ton corps, si tu veux.
Ah ok, je savais pas ça. Attends, tu rajoutes des sels minéraux. C'est-à-dire, tu avais des sels minéraux dans ta poche et boum.
Ouais,
Ouais.
c'est ça, tu vois, ce que tu appelles des électrolytes, par exemple, en sport, tu vois, ou ces boissons, c'est souvent
Tu
fait
t'achètes ça
avec du
où?
magnésium, t'achètes ça n'importe où, même chez Decathlon, tu vois, tu as plein de
Ok.
tablettes, en fait, qui sont des tablettes de reminéralisation.
D'accord.
Évidemment, ça ne te fait pas une eau normale, si tu veux, mais en tout cas, tu fais attention à avoir les minéraux qui vont bien pour ton corps, sachant que tu les trouveras pas dans cette eau de fonte, tu vois.
Putain,
Et ça,
j'ignorais
c'est
ça.
important parce qu'il y a plein de gens quand même qui sont sur l'eau de fonte. Il y a un peu, il n'y a pas une bataille, si tu veux, mais il y a quand même réflexion et conversation à propos de l'eau de fonte. Des gens qui disent qu'on boit ça sans problème, des gens qui boivent de l'eau de pluie, d'autres qui attendent qu'elle ruisselle et que ce soit donc de l'eau minérale, si tu veux, puisqu'elle se minéralise sur son
Avec le
chemin.
ruissellement.
Ouais,
Est-ce que vous
exactement.
aviez une gourde filtrante?
Ouais, bien sûr. Pas une gourde filtrante. Au début, on avait des petits filtres Sawyer, tu vois, des tout petits filtres en K2, parce que c'est un petit peu long quand même pour filtrer des gros volumes.
Ouais.
Et puis ensuite, on est passé à une lampe à UV, qui en
Ah,
fait
yes.
et ça c'est bien parce que du coup, avec les filtres, on avait souvent peur en hiver qu'ils gèlent à l'intérieur. Et la lampe, elle, ne gèle pas, tu vois. Du coup, si tu sais, enfin, si t'as peur même que ton petit filtre est gelé, il est inutilisable de fait, tu vois.
Donc en gros, pour ceux qui savent pas, une petite lampe UV, c'est une espèce de petite lampe que tu mets à l'intérieur de ta gourde, que tu tournoies comme ça, et en fait ça va tuer tous les microbes et bactéries. Mais moi je me dis, les trucs UV, tu te prends quand même des rayons UV dans la gueule, enfin tu bois des rayons UV quand même.
Ouais, t'en prends chez le dentiste quand il va, il te les
Ah mais là,
met
si tu bois tous
directement
les jours
sur
avec ta
toi.
lampe UV, tu vas pas toujours chez le dentiste. Tu vois, c'est un peu ça moi qui me...
Ouais, je sais qu'il faut pas les regarder normalement. Et puis bon, est-ce que ça te laisse des UV? Est-ce que ça se voit les UV? Je sais pas. Franchement, je sais pas, Alex. Tu
T'as l'air plutôt en bonne forme pour l'instant.
Mais on n'a pas eu de problème de santé en tout cas,
D'accord.
du début à la fin. Enfin, quasiment, en tout cas,
Et
pas lié à des
qu'est-ce que vous
problèmes de vie.
mangez?
On mangeait pas mal de trucs. Déjà, on essayait évidemment de goûter au max à la nourriture locale, aux spécialités. À chaque fois qu'on passait dans un petit resto, c'était pour goûter le truc le plus local et le truc le plus
Ouais,
chelou qu'on
ça
trouvait dans le.
j'imagine. Mais quand t'es dans ta montagne et
Ouais.
que t'es en autonomie, vous preniez quoi comme bouffe?
Bah, nous, on a un sponsor qui est en fait une marque norvégienne qui fait
Ok.
de la bouffe lyophilisée.
Ah, génial.
Vraiment dingue, tu vois. Et ça, on en a pas mal profité quand même parce que. Pendant toutes les phases d'autonomie
Ouais.
de quelques temps, c'était sympa de pouvoir se faire des envois et de récupérer un petit peu de bouffe lyophilisée parce que tu gagnes quand même beaucoup d'espace dans le sac. Et parfois en montagne, dans certains pays, il n'y a vraiment pas grand-chose quand tu arrives à l'épicerie, tu vois.
Ouais, tu m'étonnes.
Et du coup, voilà, on avait toujours ça aussi en ration de survie parce que c'est important de garder une soupape de 24 plus heures, tu vois, histoire d'attendre des secours en K2, histoire de s'en sortir, de garder la pêche, enfin, tu vois.
Il y avait une petite couverture de survie aussi, un petit sifflet, des trucs comme ça.
Ouais, on était bien équipés quand même. Je pense que c'est le problème de pas mal de gens. Quand ils partent à la journée, ils ont moins de possibilités de repli, si tu veux, en montagne. Nous, je sais que dans les Balkans, par exemple, la plupart des accidents dont on entend parler, c'est
Ouais.
des gens qui partent à la journée, qui n'envisagent pas du tout que la montagne peut les coincer et qui vont avoir besoin de faire un repli stratégique. Tu vois, nous, évidemment, un repli stratégique, on monte la tente, on se met dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de vent, tu te mets dans ton sac de couchage, t'attends que ça se passe et déjà, ça t'offre plus de chances de survie
Ah ouais,
que si tu te mets en
qui est
boule
en
sous un tente.
short, voilà, qui est en short
Ouais,
t-shirt, et tu te prends
j'imagine pas.
une rafale de neige, tu m'étonnes. Ok.
Donc, ouais.
Du coup, désolé pour cet aparté, mais c'est vrai qu'on n'avait pas pris le temps de répondre jusqu'au bout à cette question, et je pense que c'est super important de rendre les choses réalisables aussi, mais de
Bien
prendre
sûr, ouais.
conscience qu'il y a, faut pas déconner avec la montagne, surtout quand, tu vois, quand on y va un petit bout de temps. L'étape de la loi, excuse-moi. Donc voyager et jouer, c'était la dernière que tu m'as annoncée.
Il en restait 5, je crois.
Ouais.
Qu'est-ce que je peux vous dire? D'aller vers l'autre, évidemment. J'aurais peut-être dû les mettre dans l'ordre, tu vois, mais de prendre le temps de se découvrir les uns les autres, de se rendre compte que de temps en temps, même c'est sympa. Parfois, t'imagines pas que tu vas passer vraiment un bon moment avec ce mec avec qui t'aurais pas forcément eu tu vois, d'atomes crochus, quoi. Et puis finalement, ça fonctionne, c'est rigolo. Et faut pas hésiter parce qu'il y a plein de gens non seulement qui ont plein de choses à dire. Enrichissante et d'intéressante, mais de temps en temps, il y a aussi des très bons moments, des très bonnes rencontres, et faut en profiter, quoi, parce que c'est aussi ça le voyage. C'est difficile de comprendre un endroit sans comprendre les gens qui y sont, quoi. Et surtout de ne pas être sélectif, parce que sinon on est aussi sélectif sur le regard qu'on porte sur ce voyage, tu vois.
C'est une super punchline. Ne pas être sélectif. C'est laisser venir ce qui vient, en fait, et donner la chance à ce qui vient et non pas à ce que je veux. C'est
Et
super
puis
puissant, ça.
ça donne un vrai panel. C'est sûr que de temps en temps, c'est plus engageant d'aller voir ce mec qui a une bonne tête ou ce jeune, tu vois. Mais c'est aussi des points de vue, des trucs, des options de facilité en fonction de nos affinités à nous. Et en fait, de temps en temps, il y a vraiment plein de gens qui peuvent être assez rigolos et puis qui ont des trucs différents à dire, qui permettent d'entrevoir le pays de façon différente. Et c'est joli.
Justement, tiens, on va refermer, parce qu'en fait, c'était pas les tables de la loi, c'était la tablette de la loi. Il y en avait que 6, tu vois. Comme
Okay,
ça,
ça me...
voilà, ça t'évite d'aller chercher. Mais j'aimerais, parce que tu me parlais de rire, est-ce que tu pourrais me raconter un moment qui, toi, tu fais-moi rire. Enfin, genre, un moment où tu dis, putain, là, et en commençant par, je t'ai pas dit, c'est pas ce qui m'est arrivé en, et je sais pas où c'est, et de me raconter une histoire où tu dis, putain, ça, c'est marrant, ou c'est cocasse, ou genre, c'est une barre de rire.
Ouais, alors c'est pas ce qui nous est arrivé quand même. On était arrivé en Grèce. On avait fait quand même le plus dur normalement. Et là, pour la semaine, on attend la famille de Marie. Alors, c'est sympa de faire voyager la famille. Franchement, ça permet d'entrevoir les relations familiales autrement, tu vois, d'imaginer toutes ces hiérarchies, tous ces trucs vraiment différemment de la vie de tous les jours. Et partager une aventure comme ça ensemble, c'est assez cool. Bref, on attend toute cette petite famille, tu vois, et on les attend pour une semaine, genre. Épouse normalement, un peu au bord de la mer, en montant de temps en temps dans les oliviers, sympa et tout, des arbres fruitiers. Bref, ça va être sympa. Une Grèce assez rurale, mais très mère quand même. Et puis ils arrivent, on commence à se faire la première ascension. Franchement, ils dérouillent bien, tu vois. Il s'agit de monter 400 mètres, mais c'est pas facile. Dans l'eau, il y a quand même le beau-père de Marie qui a 70, tu vois,
Ah ouais, bah il y va le
son
mec.
frère. Et sa copine, Salia. Salia, évidemment, elle n'a pas beaucoup randonné dans sa vie. Et pour elle, c'est un petit peu chaud, tout ça, avec le sac à dos et tout. Bref, dur, dur la montée. Et puis là, finalement, on redescend tranquille. Et à partir du deuxième, troisième jour, on commence à entrer sur des petits sentiers vraiment, vraiment très mignons, comme ça, qui rapetissent, qui rapetissent, qui rapetissent de plus en plus. Et puis, de temps en temps, on se faufile comme ça dans les arbres et tout. On est sur ce gros sentier, normalement, le O2 en Grèce, qui est le sentier national numéro 2, tu vois. Donc, t'imagines que les choses vont bien se passer et les choses se passent bien, c'est cool. Et puis, on avance dans ces petits trucs qui rapetissent, qui rapetissent, qui rapetissent. Et puis, à un moment, on commence à vraiment galérer. On met les mains, tu vois, et puis t'as les ronces qui arrivent. On sort un peu la machette, tu vois, et puis...
Ah
On
ouais.
commence à, on commence, ouais, on commence à perdre un petit peu de temps, t'imagines. Évidemment, tu marches plus à 4 km heure, t'es là, tu coupes une ronce, t'avances un peu, tu coupes une ronce. Et puis, on joue à ça 2 jours, quand même, 2 jours et demi.
Ah ouais.
Et puis, on n'avait pas envisagé ça, tu vois. On n'avait pas envisagé de passer 2 jours et demi. Alors, je sais pas si tu le sais, toi, mais il y a plein de gens qui le savent pas. Quand t'es en bord de mer, c'est souvent un endroit très difficile pour trouver de l'eau douce à boire, tu vois.
Ouais, effectivement.
C'est pas évident et on s'y attend pas parce qu'évidemment l'eau est partout, mais la bonne eau est nulle part, tu vois. Et du coup, on s'est assez vite retrouvé sans eau
Et puis
parce
en
qu'on a
plus,
embrayé sur ces petits chemins, tu vois.
ouais.
Et c'était dur et il cognait, on était en Grèce, c'était l'été si tu veux,
Ouais.
donc tout le monde dérouillait vraiment, tu transpires des litres par jour, tu vois. Et on se retrouve à faire en 2 jours et demi ce qu'on aurait dû faire en une journée normalement, tu vois. Avec pas de possibilité évidemment de faire demi-tour puisque c'était beaucoup plus loin de l'autre côté, les routes étaient très loin, on était vraiment sur un endroit censé être pépouze mais très isolé, tu vois. Et puis là, tout le monde commence à un peu péter un plomb, tu vois. Ça devient vraiment, vraiment compliqué.
Ouais, puis le mec de 70, ça, ouais, enfin, il y a un moment, fais-moi boire, quoi.
Les gens ont soif, exactement. C'est pas facile. Donc, les gens paniquent pour certains, tu vois. Et Marie garde le groupe pendant que je descends un canyon. Je descends un vrai canyon, hein, tu vois. Il s'agissait de 150 mètres avec de temps en temps des grosses glissades, tu vois, où il fallait s'accrocher aux arbres et tout. Pourtant, on grimpe avec Marie. L'escalade, c'est notre sport, tu vois. Mais vraiment, il a fallu descendre ce truc. C'était pas évident. J'avais deux sacs sur le dos, le mien et celui de Salia, qui n'en pouvait plus, tu vois.
Oh putain.
Et je pensais qu'en bas, j'allais pouvoir rejoindre l'autre crique, si tu veux, et aller trouver des gens pour venir nous aider, parce que les sentiers étaient fermés. On ne les trouvait même plus, il y avait trop de ronces partout, si tu veux, et il y a un moment où c'était plus possible d'avancer, quoi. Du coup, on ne pouvait pas faire demi-tour, on ne pouvait pas avancer non plus, tout le monde était mort de soif. Bref, il fallait vraiment trouver une solution. J'arrive en bas, et là, le meilleur, si tu veux, j'arrive dans cette crique de ouf. Et de chaque côté, des murs, genre vraiment des falaises, tu vois. Pas possibilité de passer de l'autre côté, et dans cette crique, il n'y a rien, tu vois. Donc,
T'étais
je sais que
censé
je
me
peux.
faire rire à la base. Là, tu vas me faire chialer là.
Non, 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 ça va aller, il y a un happy ending, si tu veux. Mais ouais, écoute, rire ou s'ébahir. Non, c'est assez intéressant quand même. Là, j'arrive dans cette crique où
Bah
il n'y a
déjà,
rien.
tu prends un coup de bambou sur le moral là quand même.
Là, je prends un gros coup de bambou sur le moral, mais bon, j'ai quand même cette petite adrénaline, si tu veux. Je suis tout seul. Marie essaye de me contacter vaguement comme elle peut, par Internet, par petites vagues. Et puis voilà, j'arrive en bas. Là, il faut prendre une décision. Je peux pas remonter, évidemment. Je peux pas remonter avec mes deux sacs. Donc, j'abandonne mes deux sacs. Je trouve deux bidons. Un premier bidon avec un couvercle dans lequel j'arrive à mettre mon téléphone, si tu veux, et mon GPS satellite. Et le deuxième bidon pour me mettre dessus.
Comme ça, tu trouves un bidon, tu trouves un
Pour
bidon.
commencer à nager, il y avait plein de bidons, c'est-à-dire que dès que sur les côtes, tu arrives dans des endroits inaccessibles, c'est des poubelles, si tu veux.
Ah,
C'est
avec les courants, en fait, c'est ça?
des poubelles géantes, en fait, tu vois, sur n'importe quelle crique abandonnée, et je comprends pourquoi cette crique est abandonnée, en effet, tu vois, tu trouves tout et n'importe quoi. Donc, tu trouves aussi des bidons d'huile, tu vois, des gros bidons d'huile pour les bateaux, quoi.
Ouais.
Moi, c'est ce que j'ai pris pour essayer de m'en faire une bouée, si tu veux, et d'aller nager pour trouver la crique d'après, avec mon
Putain.
petit bidon et le téléphone accroché au pied, si tu veux. Et me voilà parti pour la prochaine crique. Donc, j'ai dû nager 600-700 mètres, si tu veux,
Ah,
avant de
pas mal.
pouvoir de passer le truc. Ouais, quand même. Moi, j'avais la bouée, hein, donc ça allait, mais avec un petit peu de mer et tout, et puis t'as le truc. Moi, je suis pas un gros nageur non plus.
Oh,
Autant
mais
j'aime bien
600 mètres, ça
grimper.
tape, ouais.
Ah ouais, ça tape, ça tape.
Ça fait 6 fois. Attends, ça fait 6 piscines olympiques. Oh, c'est.
Ça fait sûr.
Ah
Ouais,
non!
un truc
Ça fait.
comme
Non,
ça,
ça
quoi.
fait 12 piscines olympiques. Oh
Ouais.
là là, ah ouais, ça commence à faire chiant.
Ouais, peut-être un peu moins, tu vois, j'en sais rien, 500, 400 mètres, tu vois. Le truc est que j'ai passé un bon bout de temps dans l'eau, que je sors sur l'autre crique d'après, si tu veux, et que là, je vois deux mecs, j'arrive, je sors de l'eau, et évidemment, ils me prennent pour un migrant. Donc là, ils me prennent pas du tout au sérieux quand je leur dis que j'ai ma famille derrière qui est en train de mourir de soif et qu'ils ont besoin d'aide, si tu veux. Le mec me dit, attends, attends, je vais me baigner un peu, on verra ça plus tard.
Mais non.
Et de là, si tu veux, quand même, j'arrive à le convaincre de remonter. Donc le mec fonce, me dit de monter dans le pick-up. J'arrive en haut du village. Évidemment, j'ai pas de t-shirt. Je suis en short. J'ai encore mon bidon. Les gens comprennent pas. Tout le monde me dit, mais pourquoi t'as pas de t-shirt avec le peu de grec que j'ai, si tu veux. Et rapidement, on finit par appeler la police, puis les pompiers. Et tout le monde arrive. Ça devient une vraie fête de village, si tu veux, avant le truc. En tout cas, les mecs se servent des bières, des cafés frappés dans tous les sens. Tout le monde essaie d'imaginer un stratagème pour venir chercher ces gens dans la forêt. Et en fait, le truc était tout simple. Tu vois, les mecs se prenaient la tête, genre vraiment fort, quoi. Moi, j'avais les positions satellites en plus, donc le truc était bouclé. Il s'agissait de prendre une petite tronçonneuse, un peu de flotte, trois sandwichs, et puis l'affaire était bouclée, tu vois. Et puis, au bout d'un moment, nous voilà tous partis, donc avec la police, le mec du village,
Ah
ses deux
ouais.
chiens, et voilà, à venir à la rencontre donc de tout ce petit monde qui était perdu, que finalement on a trouvé. Donc aujourd'hui, Yves raconte ça comme un des plus beaux moments du voyage, ce fameux moment où la police est arrivée avec de l'eau et tout, tu vois. C'était les pompiers et on s'est vraiment bien marré pour le coup. Aujourd'hui, ça reste une bonne bonne expérience, tu
Putain, les mecs, ils ont... donc en fait, les mecs, ils ont en profité pour renettoyer le sentier, quoi.
vois. Ouais, les
Parce qu'en
mecs
fait,
en
ils
ont
sont passés
profité.
par le sentier, ils ont juste débroussaillé le sentier et ils ont ramené de la flotte, quoi.
T'imagines que c'est le O2, donc le sentier national numéro 2, et ça reflète pas mal en fait la randonnée en Grèce. C'est pas le truc numéro 1, ça brasse pas le tourisme. Et du coup, il y a des sentiers, il y a énormément de potentiel pour marcher, il y a énormément de trucs à voir. Pour autant, il n'y a pas d'entretien, c'est assez triste parce que de temps en temps, tu te retrouves à marcher dans des hautes herbes piquantes partout, et c'est pas facile quoi.
Putain, alors ça, mec, ça c'est fort. nager sur une autre crique, rameuter la police et les pompiers pour débroussailler le sentier. Et... Oh là, pas mal. Franchement, elle est pas mal. Elle est vraiment
Il y a pas
pas
mal
mal.
de détails qui méritent, mais bon, c'est une longue histoire, tu vois,
Putain.
et c'est un gros voyage, 2 ans. Il y a eu d'autres trucs assez marrants.
J'imagine. Écoute, on va terminer ce podcast sur les deux questions traditionnelles. Si je te file les clés de la DeLorean pour revivre un seul moment de ces 2 ans, c'est pas forcément le plus fou, c'est pas forcément le plus kiffant, ce serait quel moment?
Ce serait sûrement un moment en Espagne. C'est un chouette moment. C'est un beau pays, l'Espagne, dans la campagne espagnole. On est arrivé dans ce village, à Cabreton, où on est devenu pote vraiment avec tout le village, des fermiers super sympas, la nana qui élève ses lapins, et puis Asten, qui a été vraiment une nana magique, si tu veux. On l'a toujours vue avec ses lunettes parce qu'elle devait se cacher dans le bled et c'était pas évident. Elle a une drôle de vie, tu vois. Mais c'est une chouette nana. Et puis toute cette partie de l'Espagne avec des parties très désertiques, avec beaucoup d'espace, beaucoup de ruralité très simple. Ça a été un moment très particulier. On était vraiment dans un film. Tout était pictural, si tu veux. Et là, comme ça, avec la pluie tous les jours qui tombe à Paris, s'il y a un moment dans lequel aujourd'hui, avec la DeLorean, j'aimerais bien aller, c'est sans doute là-bas.
Putain, stylé.
Le centre de l'Espagne, c'est assez peu connu et ça mérite aussi. Il y a vraiment des coins qui sont magnifiques. Tu as des bleds tous les 50, 60 km. C'est grand, l'Espagne, il y a vraiment
Ouais.
de la place, tu vois. Et entre, t'as des natures parfois qui sont pas que cette agriculture intensive, mais vraiment des coins qui sont assez magnifiques. Et faut y aller quoi. C'est
Putain,
pas loin
tu donnes
d'Espagne.
envie en tout cas, tu donnes envie.
Ouais.
Dernière question, si tu devais résumer ce trip de fou en une citation, une punchline ou une phrase de ta création, ce serait laquelle?
Ouais, alors. En une punchline, c'est pas facile.
Eh bah ouais.
Je dirais qu'il faut se. Il faut se donner les moyens d'aller vivre des trucs de ouf, que l'aventure et l'exploration, c'est quelque chose qui nous paraît intouchable aujourd'hui parce que tout a été découvert, que pour autant, cette découverte, c'est un état d'esprit et que cet état d'esprit, c'est vraiment à nous d'en profiter. On ne découvrira jamais les choses de la même façon que qui que ce soit d'autre et puis qu'il y a une temporalité dans la découverte, dans l'exploration, qui fait que d'une saison à une autre, tu vis jamais la même histoire, les choses se goupillent jamais, jamais pareil, et que tous ces moments, ils sont beaux à voir. Voilà, quand tu traverses un continent, tu traverses jamais qu'une petite ligne de
Ça,
ce
c'est
continent.
plus une punchline, c'est un poème. Mais franchement,
Ouais, tu vois.
t'as été inspiré. Écoute, je trouve ça. Non,
Voilà.
je suis assez d'accord. Je trouve ça vraiment génial de se dire que. En fait, la découverte, c'est un état d'esprit. Je trouve que ça, c'est génial. Celle-là est. Je trouve ça. Enfin, c'est exactement ça, en fait. Tu peux être
C'est
dans les lieux les
important.
plus dingues du monde. Si t'es pas là, en fait, il se passe rien. Donc, écoute, Neil, je te remercie beaucoup. Merci pour toutes ces aventures que tu nous as partagées, pour cet état d'esprit, pour ces leçons, pour ces anecdotes. Internaute, j'espère que ça t'a plu. En tout cas, avant de nous quitter, il y a un truc qui nous fait toujours plaisir. C'est une petite dédicace en story. Voir où t'as regardé le podcast, en train de faire ta vaisselle, en train de peut-être faire une randonnée, ça arrive souvent, ou en train d'aller au boulot, bah parce que c'est aussi ça la vie. Et si tu veux retrouver toutes les photos et les vidéos de Neil et Marie, évidemment, comme d'habitude, c'est dans la description du podcast. Tu peux aussi taper deux pas vers l'autre sur n'importe quel réseau. Ça va remonter tout seul. Et en tout cas, Neil, je te remercie beaucoup et je te souhaite
Merci à
un
toi.
bon retour et un bon atterrissage. Parce
Ouais,
que,
salut à
mais un
tous.
atterrissage pour un mec qui a fait que voyager à pied, évidemment. Mais un bon atterrissage de palier de décompression. Voilà.
Écoute, pour l'instant, on le vit bien. Et si jamais tu as le temps, le 4 avril, ça nous ferait plaisir que tu sois là.
Et je serai là où alors? Bah dis-le, balance.
Petit événement, ouais, à Paris, événement de retour, donc 2 pas vers l'autre, voilà, 2 ans de retour d'expérience, expo photo, projection,
C'est où?
donc espace minime. Et
L'espace minime.
évidemment, on en parle pas mal sur notre Facebook, sur le site internet et tout. C'est le 4 avril. Voilà.
Eh ben,
Si
je
vous êtes à
remets.
Paris, si
Pour
vous êtes
tous
dans
ceux
le
qui
coin.
entendent le podcast et qui ont envie de se faire un petit kiff et de partir en rando tout en restant à Paris, eh ben, allez checker ça. Je pense que vous allez voir des belles choses. Neil, je te remercie beaucoup.
Allez, salut Alex. Ciao.
Ciao.